18h Sport. Tout le sport en Charente. Tous les lundis soirs, 19h.
Hello tout le monde, bienvenue sur Attitude, votre radio 98.3, 90.7, www.attitudefm pour nous écouter partout en France. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi à partir de 19h10. Nous accueillons ce soir Michael Ruiz, l'entraîneur de l'AS Saint-Yrieix. Michael, bonsoir, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir tout le monde et puis merci pour l'invitation.
Et j'accueille notre chroniqueur numéro 1, Dédé. Donc Dédé, bienvenue, comment vas-tu?
Eh bien écoute Didier, ça va, les conditions climatiques se sont améliorées, donc tout va bien, je salue les auditeurs.
Michael, donc on est ensemble pendant 30 minutes environ, on va avoir l'occasion de balayer le paysage de ton club. Première question, est-ce que tu peux nous faire un bilan de ce qui s'était passé la saison dernière, Michael?
Oui, on va faire un bilan, l'année dernière on était en R3. On a validé une deuxième montée consécutive, puisqu'il y a 2 ans, on était en championnat district. Donc l'année dernière avait été plutôt positive. On avait validé une montée à 5 journées de la fin. On avait vécu encore une super année. Et puis voilà, notre équipe B s'était maintenue en championnat D2 et notre équipe C s'était maintenue également en championnat D3. Donc ça avait été une année positive en tout cas.
Une année faste. Dédé, ta première question?
Eh bien, c'est sur la même lancée, Michael, puisque là, j'ai brossé un petit peu les résultats et le classement. Vous êtes quatrième, c'est bien, c'est même merveilleux.
On est dans un championnat avec beaucoup de retard. Il y a des équipes, notamment dans la poule, comme Sireuil ou Choré, qui ont pas mal de matchs en retard. Mais bon, peu importe, ça reste très positif, surtout qu'on a connu un début de saison qui a été très, très, très compliqué, où on avait enchaîné 5 défaites d'affilée. Donc on va beaucoup mieux et c'est le principal. Peu importe après qu'on soit quatrième ou sixième, c'est pas le plus important.
Oui, ça commence par un match nul chez vous avec contre Saint-Gelais. Oui. Ah oui, j'ai fait une erreur.
Non, c'est pas dans notre poule. On a commencé notre saison à domicile les premiers points c'était contre Niort-Saint-Florent chez nous et après on avait enchaîné le Roi toujours chez nous.
Et vous faites un bon match nul à cause.
Oui, ça a été un match à mon avis, enfin pivot, on va dire, puisque on n'y va pas en tant que favori là-bas. Cause est dans une série incroyable et va faire un très bon match nul.
Et ils sont premiers, je crois.
Ils sont premiers, tout à fait. Ils vont certainement monter, mais au-delà du match nul, on mérite tous les jours de gagner, mais c'est comme ça. Et donc on va faire un très bon match là-bas, ouais, c'est sûr.
Quelle est l'équipe qui aujourd'hui la plus impressionnante dans votre pôle Ciscoz où vous auriez pu peut-être gagner le match aller? Quelle est l'équipe qui logiquement devrait être en première?
C'est Libourne. Pour moi, c'est l'équipe qui est au-dessus. Alors attention, Cos a une très belle équipe. Oui. Après, je pense qu'ils ont surfé sur une dynamique exceptionnelle en début de saison, un peu comme nous l'année dernière. Quand on enchaîne les victoires, on a l'impression que rien peut nous arrêter, les faits de jeu vont dans notre sens. Mais sur le match aller comme sur le match retour, on a largement moyen de les accrocher avec un petit peu plus de réussite. Par contre, Libourne, c'est une équipe qui est au-dessus. C'est une équipe qui dépend beaucoup de leur National 2, qui est aussi première en National 2. Voilà, c'est pour moi la meilleure équipe de la poule.
Qu'est-ce qui pêche quand on voit évidemment les buts marqués et les buts encaissés? Quel est le point faible de l'équipe s'il y en a une?
Alors c'est que cette année on est dans une année très très particulière. Alors, déjà la première chose c'est qu'il faut quand même pas oublier qu'on est sur 2 montées de suite. Donc l'étape R2, elle était à la base, on le savait déjà, très compliquée. Il y a 2 ans on jouait en championnat district, maintenant on joue contre la réserve de Libourne, contre Cos. On est des équipes qui ont l'habitude de jouer en R1 comme Niort qui descend, Royan qui descend, donc on est dans un autre monde on va dire. Donc on savait qu'on allait avoir un temps d'adaptation. Mais au-delà de ça, on est en train de vivre une saison comme je n'ai jamais connue. C'est-à-dire qu'on a énormément de blessés, énormément de soucis d'effectifs. Là, ce week-end, on en a encore 6 en moins. Ça a été à peu près la moyenne depuis le début de saison. Sur les 5 premiers matchs, on enchaîne 5 défaites d'affilée. Et j'ai quelque chose qui me reste en tête, c'est quand on se déplace à Niort-Saint-Liguer, qui fait partie aussi des belles équipes sur la phase aller. Oui. On a 9 joueurs absents, enfin 9 joueurs blessés, et pendant le match, j'en ai 2 qui partent aux urgences. Et donc, on finit ce match avec 11 blessés. Et ça a été ça une grosse partie de la saison. On s'y est fait à force, parce que là où il nous en manque toujours du monde. On a des joueurs, des titulaires indiscutables de la saison dernière qui n'ont toujours pas mis le pied sur un terrain cette année. Donc on a, voilà, il a fallu qu'on cherche l'effectif dans une poule relevée et sans pouvoir travailler sur la continuité, match après match. Donc c'est-à-dire que match après match, l'effectif, il changeait de 4-5 joueurs sans arrêt. Et donc c'est ce qui a expliqué notre début très poussif. Et puis la deuxième explication, c'est qu'on est dans une très belle poule aussi.
Quand vous parlez de Saint-Florent, vous avez neuf blessés, je crois, sur
Saint-Liguer. C'était Niort Saint-Liguer.
Mais Saint-Liguer. Oui. Ces blessures, ils viennent des matchs antérieurs ou ça c'est pendant le match?
Non, pendant le match, il y en a eu deux. Les deux partent aux urgences à la fin du match. C'était sinon sur des matchs d'avant. Et on a un joueur qui s'est fait les croisés cet été. On a un joueur qui s'est cassé le ménisque sur un match amical contre Barbezieux. Et en fait, ça s'est enchaîné. On a récupéré un joueur également qui s'est fracturé l'épaule, un autre qui s'est fracturé le pied. Enfin, ouais. Ça a été un début de saison que j'avais jamais vécu ça. Et chaque semaine, il nous tombait quelque chose sur le coin du nez. Donc ça a été très 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 difficile à gérer et surtout on n'était plus au même niveau. La R2 c'était un beau championnat et quand on commence, notamment COS, je crois qu'on les joue à la deuxième journée, Niort Saint-Liguer à la troisième journée, Libourne à la cinquième journée. On vient de parler de trois très gros et on les joue avec un effectif cassé. Donc c'était pas simple.
Oui. Par rapport à ça, par rapport aux blessures, Michael, est-ce que tu as pu compter sur les joueurs de l'équipe B donc pour pouvoir pallier les absences?
Ah ben heureusement, mais il fallait de toute façon déjà. Je les remercie d'ailleurs que ce soit le coach et le joueur d'avoir joué le jeu parce que eux aussi ils avaient un championnat à jouer. Notre objectif en R2, c'était le maintien. On a l'ambition et le souhait de faire monter notre équipe B en D1. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, ils sont encore bien placés, malgré tout ce qu'on a pu leur amputer comme joueurs sur le début de saison. Ouais, donc oui, des joueurs sont venus nous aider. Ils l'ont fait avec le maximum de sérieux et je les remercie et voilà, ça, on a pu compter sur eux.
À ce propos, Michael, est-ce que les entraînements sont communs entre l'équipe A et l'équipe B ou est-ce que tu comptes sur un groupe élargi ou pas?
Non, on fait un groupe élargi. On a un groupe A qui normalement, comme tout va bien, est de 21, mais il est pas de 21 aujourd'hui. Il est très très loin d'être à 21. Et ensuite, on a un groupe B et groupe C qui travaillent ensemble.
Combien il y a d'éducateurs au club?
Alors, au niveau des seniors, il y a trois éducateurs, un par équipe, et ensuite on a des dirigeants qui nous suivent sur les trois équipes.
Est-ce qu'on peut élargir le débat sur le nombre de sections qu'il y a au club?
Au niveau d'école de foot?
Oui.
Alors, on a toutes les catégories jusqu'au U15.
D'accord, c'est une belle performance.
Et voilà. Et on paye un petit peu aussi, on paye un petit peu parce qu'on était en entente il y a encore 2-3 ans avec Champigny, où là, on avait des équipes dans toutes les catégories. Et donc, il a fallu repartir à zéro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les garçons les plus vieux, entre parenthèses, de l'école de foot, c'est des U15. Mais par contre, on a beaucoup de joueurs en U11, en U12, en U13, U14. Ça, on a du monde. Et pour l'instant, on a un trou de génération entre les U15 et les seniors.
Ouais, U15, après c'est compliqué pour s'il y avait des blessés pour la B, vous avez la C également. Donc ouais. Derrière ça c'est vrai, il y a un écart important quand même, non?
Alors on a été en flux tendu toute l'année, on a réussi à aligner, on a fait aucun forfait malgré tous les pépins qu'on a, Donc on a quand même des joueurs sérieux et assidus malgré tout ce qui est arrivé. Et donc ça c'est hyper important déjà de pas faire de forfait. Et après en effet, c'est compliqué, il faut aussi se le dire, il y a rien de méchant à dire ça, mais entre la D2 et la R2, il y a une énorme marche. Et déjà nous on le voit en arrivant de R3 que la marche était haute. Alors des garçons qui ont l'habitude de jouer en D2, dès qu'ils arrivent en R2, la marche est très 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 haute. Ouais. Mais en tout cas, ils ont tous ceux qui sont venus, ils ont fait le taf et c'est super.
Vous aviez fait des recrues dans la saison 2023-2024?
Oui, on a fait des recrues. Alors, cette année, c'est la particularité de l'année, en fait. C'est que ça a été très, très compliqué à gérer de manière globale. On a récupéré des garçons en tout début de saison. Un garçon, un jeune qui est arrivé de la CFC, par exemple. Un garçon qui a du gros potentiel, qui est arrivé de Saint-Brice en D2. On a récupéré un garçon qui est arrivé de Cognac, etc. On a fait des recrues. Mais, on a eu beaucoup de casses en début de saison. Donc, ce qui veut dire qu'il a fallu aussi qu'on se réajuste en cours de saison, notamment sur les 2-3 premiers mois, et il a fallu qu'on trouve encore d'autres solutions. Et on a eu la chance de pouvoir compter sur 2-3 joueurs qui nous ont rejoints alors que la saison était bien commencée. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, avec tous les soucis d'effectifs que l'on a, je ne sais pas comment on aurait fait sans les garçons qu'on a récupérés, on va dire entre septembre et octobre.
Je pense qu'il sera assuré le maintien à la fin de saison.
Alors non, en fait, non. Là, il faut, c'est pour ça que ce classement, il est trompeur. On est sur une année de réforme. Donc déjà, il va y avoir 4 descentes.
Ah oui, ah oui.
Voilà. Et quand on regarde l'avance qu'on a par rapport au premier non relégable, qui est Niort Saint-Florent, c'est 2 points d'avance à 5 journées de la fin. Non, il est pas encore fait. En fait, il y a 3 descentes par poule, plus le plus mauvais 9e des 6 poules. Et ensuite, il y a une descente supplémentaire par descente de National 3. Et en National 3, ça va très mal pour les équipes de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux joueurs qu'il faut absolument qu'on assure et laisser 4 équipes derrière nous. Aujourd'hui, on serait sur une saison lambda avec 2 descentes, oui. On serait serein, oui, on serait pas encore sauvé, mais une année à 2 descentes, il faut sauver à peu près à 23 points, 24 points et on y est. Mais il y a 4 descentes, donc il va falloir encore en laisser 2 derrière. Donc non, le maintien il est pas encore acquis, loin de là.
Oui, c'est vrai. Quand on regarde le classement, Michael, on s'aperçoit qu'il y a 6 équipes en 4 points
derrière nous. C'est ça. Et au-delà de ça, on peut même rajouter celle qui est devant nous, hein, le Roi oui, qui a 25 points, mais ils ont un match d'avance par rapport à nous. Donc on est réellement 10, parce que même les derniers ne sont pas encore décrochés définitivement. Et donc on est 10 à jouer le maintien, très clairement. Il y a pour moi Libourne-Écosse qui sont intouchables au-dessus. Et ensuite on est 10 pour 4 places, pour 4 descentes plutôt.
Mais quand on voit Sirock qui est 9e, Merpin, ça va mal. C'est vrai qu'ils ont des matchs en retard, donc c'est vrai que quand on regarde le classement, il est trompeur.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste vigilant. On a passé toute notre saison dans les 2 dernières places. Et c'est vrai que là, on vient de prendre 9 points en 3 matchs. Mais comme j'ai dit aux joueurs, si on est monté aussi vite, on peut chuter aussi vite. Donc vraiment, rester concentré sur ce qu'on a à faire et pas s'enflammer parce qu'on est 4e sur le site de la Ligue.
Vous êtes un groupe homogène quand on regarde. Il y a moins 4, donc c'est entre les buts encaissés et les buts marqués, c'est homogène quand même.
Tout à fait. C'est un gros groupe. C'est vraiment un gros groupe. Moi, je discutais quand on a été à Cos faire match nul. On a discuté avec les dirigeants sur place et ils nous ont dit que, alors eux, ça fait 2 années de suite qu'ils ratent la montée pour un seul point. Et là, cette année, ils sont en tête, mais pour eux, ils ont dit que c'était la plus grosse poule qu'ils aient connue sur ces dernières années au niveau R2. Et clairement, c'est ce que nous on remarque aussi, il y a 0 match facile. En fait. On joue le dernier ou qu'on joue le deuxième, c'est la guerre.
Oui, quand on analyse bien le classement, on voit même que ceux qui sont derrière vous ont aussi une bonne attaque.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que c'est homogène et c'est vrai qu'il faut pas, il faut pas s'endormir, je pense.
Ah, va pas falloir s'endormir, surtout qu'on a un gros calendrier pour finir. Donc, oui. On le sait que, il est très très clair. Moi, j'ai tout calculé. La moyenne pour s'en sortir quand il y a 4 descentes, c'est 29 points.
Et si l'année dernière, géographiquement, quel type de poule vous aviez, Michael? Ouais. C'était une poule qui est semblable à celle d'aujourd'hui?
Non, on est à l'inverse. On est parti en Dordogne l'année dernière, tandis que là, on est côté Charente-Maritime de Sèvres.
D'accord. Ouais, et qu'est-ce que tu notes comme différence notoire en termes de foot pratiqué?
Alors, je suis pas sûr que ce soit une question de territoire. Déjà, le niveau R2, il y a un gros écart avec la R3, ça c'est une certitude. Ensuite, on a une poule, ça a été évoqué, très homogène, avec beaucoup d'équipes qui étaient l'année dernière ou dans les 2 dernières années en R1, voire certains au-dessus. Donc là, on joue des équipes et des clubs qui sont structurés, qui ont l'habitude de ce niveau-là, qui s'entraînent dans des bonnes conditions, ce qui est loin d'être notre cas. Et en termes de qualité de football et de recrutement, ils ont plus de facilité que nous. Et après, l'année dernière en R3, on jouait des équipes avec un jeu très direct. Alors on dominait nous, on est monté, donc on a été premier. Et c'est vrai que nous on essayait de faire du jeu et on avait beaucoup d'adversaires, on va dire les trois quarts où c'était du jeu direct, tandis que là, ben on prend du plaisir, c'est des équipes qui jouent au football. On a battu deux fois Échiré en 48 heures parce que là aussi le calendrier fait que on a été obligé de jouer deux fois Échiré en 48 heures. Aujourd'hui, ils sont derniers, mais c'est une équipe qui a essayé de jouer au ballon. Donc c'est vraiment une grosse différence. J'ai pas vu d'équipes qui ont balancé cette saison.
Merci de votre fidélité. C'est Culture Sport, votre émission. Chaque lundi à partir de 19h10, nous recevons aujourd'hui Michael Ruiz qui répond aux questions de Dédé et de votre serviteur. Dédé, c'est à toi.
Oui, ce que je voulais dire, Michael, c'est vrai que c'est compliqué quand on fait deux matchs aller-retour. En plus, c'est pas à 2 kilomètres. Du lieu. Et puis il y a le travail aussi, parce que je suppose que tout le monde a une activité professionnelle. Donc
ça a été compliqué à gérer. Là on s'en, enfin très sincèrement on s'en sort très très bien, parce que là on vient de sortir d'une phase de 3 matchs en 7 jours et on a pris 9 points. C'est super. Ouais, c'est bien. On a battu deux fois Échiré en 48 heures et ensuite on vient d'aller gagner un match très important sur le terrain de Royan. Mais sur le terrain de Royan, on le sait qu'on a notre destin entre les mains. On met la pression aux joueurs en disant que c'est maintenant, si on veut se maintenir, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner. Mais malheureusement, très très vite, on s'est rendu compte que les jambes étaient complètement coupées. On n'a pas cette habitude-là, on n'est pas des pros, on n'a pas les moyens de récupération. Comme ça a été évoqué, il y a le boulot, il y a la route. C'est très compliqué. On n'est pas des pros pour pouvoir enchaîner des matchs comme ça. On n'est pas fait pour ça en fait. Donc oui, c'est ça aussi, ça va être un critère important. J'ai une pensée aussi pour Sireuil, qui est dans la difficulté en termes de nombre de matchs. C'est une équipe qui a de la qualité. C'est une équipe qui doit se maintenir. Et eux, ils ont beaucoup de matchs en retard. Ils vont être obligés d'enchaîner les matchs sur les matchs fériés, sur les jours fériés, pardon. Donc ça fausse le championnat. Les intempéries de cette année ont faussé le championnat.
Oui, il y a ça, Michael, mais il y a autre chose. Comment on peut préparer la saison qui va elle va se terminer bientôt, et déjà se pencher sur la saison à venir, puisque il va falloir peut-être recruter. Ça doit être compliqué tout ça.
Alors de toute façon, ça, tous les ans c'est comme ça. Mais cette année. On va dire que l'année dernière, on a été très vite champion. On est champion à 5 journées de la fin. Donc on a pu se poser, commencer à regarder, etc.
Bien sûr.
Je vais être très très clair. Mon esprit n'est pas du tout tourné sur la fin de saison. Il faut qu'on se maintienne. Évidemment que le recrutement ou les joueurs qui vont rester ne sont pas les mêmes si on redescend en R3 ou si on reste en R2. Oui. Donc il faut se concentrer sur cette fin de championnat. Bien après sûr. Ce que les joueurs feront, ce que moi je ferai ou les potentiels recrues, c'est pas l'heure pour l'instant. Mais évidemment que plus on attend, et plus ça va être compliqué, parce que aujourd'hui il y a des clubs qui sont déjà actifs, donc c'est pas simple à gérer, c'est sûr.
C'est pour cette raison que je posais la question.
Bien sûr.
En tous ces matchs reportés, le classement est faussé. C'est vrai que pour préparer une saison à venir, je me mets à votre place, ça doit être compliqué. C'est pour cette raison que je posais la question.
Complètement. Ouais, c'est très dur.
Si j'ai bien compris, votre destin également. Vous allez rester, vous allez pas rester, ça c'est aussi une question que vous posez peut-être.
Non, pas pour l'instant. Ça fait 10 ans que je suis là maintenant. Ah oui. Ça fait beaucoup, mais c'est pas une question que je me pose pour l'instant là, et je veux même pas me la poser. Peu importe ce qui va se passer, ça serait dur d'avoir fait 2 montées d'affilée pour redescendre. Même si c'est une année de réforme, quand je dis année de réforme, c'est 4 descentes. Même si on a connu une année noire en termes d'effectifs, ça serait dur de redescendre. Donc pour l'instant, la seule chose qui me préoccupe, c'est de maintenir Saint-Yrieix, savoir ce que je fais l'année prochaine.
Et la montée de la B, peut-être, parce qu'il y a un écart, comme vous le disiez, assez conséquent entre la deuxième division et la R2.
C'est ça. Alors la B est toujours en course. Ce que je disais tout à l'heure, la B est toujours en course pour la montée. Maintenant, eux aussi sont dans une poule très très homogène puisqu'ils sont 6 à pouvoir monter encore à 2 mois de la fin. Donc le vrai objectif aujourd'hui, on serait nous maintenus, on se concentrait sur la B. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de sauver la première. La B va se sauver, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais par contre, ça va être un objectif de réduire l'écart entre les deux équipes, ça c'est sûr. Par contre.
Ouais, c'est pour cette raison que je posais la question. Ça ne doit pas être facile quand même de pas descendre et essayer de monter parce que l'écart est compliqué. Enfin, l'écart est trop grand. Ça, c'est vrai que les journées, les soirs, ça doit être c'est court.
Bien sûr, et c'est aussi un souci pour recruter, parce que quand on veut avoir un groupe cohérent avec la quantité et la qualité, qu'on veut récupérer une 20aine de joueurs et qu'il y en a, quand tout se passe bien, parce que ça n'a pas été le cas cette saison, les choix ont été assez rapides vu les blessures, mais quand on a 18 joueurs de présent et qu'il faut en descendre 4 du R2 à la D2, c'est pas simple à expliquer à un joueur qui est venu pour jouer à un bon niveau régional et l'envoyer en deuxième division, c'est pas simple. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de réduire l'écart.
Vous avez des regards sur les jeunes qui peuvent en U15, qui peuvent notamment peut-être intégrer dans quelques années la R2, voire la R3?
C'est l'objectif des clubs amateurs. D'avoir des garçons du cru et de les faire monter. Maintenant, U15, ça veut dire qu'ils ont 14 ans. Donc, ils ont 4 ans encore. Donc, il y a encore plein de choses il y a encore plein de critères, les études, le si, est-ce que je continue le foot. Donc, mais bien sûr qu'on est attentif à ce que font nos jeunes. Et ça serait super aussi si on pouvait avoir des 17, des 18, parce que c'est des garçons qu'on pourrait intégrer aux entraînements des seniors. C'est ce qu'on faisait avant. On les intégrait à 2 mois de la fin avec les seniors pour les préparer pour les années d'après. Mais pour l'instant, on ne peut pas.
Michael, quelle est la différence notable entre coacher une équipe comme l'année dernière où on joue la montée, où la montée arrive vite, et une comme cette saison où on joue pour éviter la descente? Qu'est-ce qui est le plus difficile?
Pour moi, j'ai un caractère, je suis toujours en stress en fait. Quand je joue la montée ou je joue la descente, de toute façon, j'aborde les choses de la même façon. Par contre, c'est vrai que moralement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on donne beaucoup. On donne beaucoup de temps, les joueurs aussi donnent beaucoup, et quand on doit se déplacer avec la moitié de l'effectif, perdre, voir cette zone rouge se rapprocher où il a été pendant un moment, ça touche le moral. Donc à un moment donné, il faut être capable de passer au-dessus. Je vais pas cacher que après la 5e journée contre Libourne, on est à 0 victoire, 0 nul et 5 défaites. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Donc là, il faut trouver des solutions, faut discuter, faut savoir est-ce que on continue comme ça, est-ce qu'il faut changer des choses, et en tout cas retrouver aussi le moral pour pouvoir rebondir, et c'est pas toujours simple.
Il vient d'où alors, Mickaël, ce déclic là entre les 5 matchs que vous perdez? Bon, il y a une remise en cause, c'est sûr. On se dit, est-ce que j'ai pas fait le travail? Qu'est-ce que j'ai? Et ensuite, il y a eu ce déclic.
Ouais.
On tu peux avoir une explication, s'il te plaît?
Oui, bien sûr, oui. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Si on doit déjà revenir à l'origine de la saison, on a changé complètement de dispositif et de projet de jeu. Parce que on a eu des soucis à certains postes. Et du coup, on a modifié notre système, on a modifié notre projet de jeu. Et le problème, c'est que ce projet de jeu, alors pour être transparent, on était sur un 4-3-3 depuis 2-3 ans et on est passé sur un 3-4-3. Ce 3-4-3, j'y crois dur comme fer. Il a fonctionné. Ça, c'est une certitude et j'y crois dur comme fer. Le problème, c'est que sur ce début de saison, on a tellement eu de blessés, tellement eu d'absences que on n'arrivait pas à travailler dans la continuité. Et dans un 3-4-3, il y a des postes qui sont hyper importants. Déjà, passer sur une défense à 3, c'est autre chose qu'une défense à 2. Les joueurs de couloir, les joueurs dans les demi-espaces, c'est des automatismes qu'on doit créer. Et comme on n'avait jamais les mêmes joueurs, on n'arrivait pas à créer ces automatismes. Donc la première chose, pour répondre à la question, c'est que après une discussion avec les dirigeants, avec des joueurs, on a dit « Ok, on a des manques à certains postes, mais c'est pas grave, on va les combler et on va revenir sur un 4-3-3 que l'on maîtrisait pour retrouver un petit peu des repères. Et comme on avait énormément de rotation d'effectifs, c'était moins compliqué pour un joueur de revenir dans un 4-3-3 qui est connu de tous, plutôt que de revenir dans un 3-4-3 où c'est pas si simple que ça, le 3-4-3. Donc ça a été la première chose, c'est qu'il y a eu un changement de dispositif. Ensuite, la seconde chose, c'est que bah, c'est comme tout en fait, c'est la tête qui fait marcher le reste. Et quand on était sur 5 défaites d'affilée, moi je vais pas cacher qu'au bout de 5 défaites, j'ai dit au groupe, est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que moi je continue? Est-ce que vous souhaitez que je continue? Donc tout le monde a dit oui, si, on va continuer, reste, etc. Donc et puis il y a eu ce match contre Niort Saint-Flo derrière, où on joue dans des conditions très compliquées. Le terrain est quasiment injouable. Il avait plus de, enfin voilà, on a joué, mais bon, sincèrement, voilà, le terrain était très limite. Et ça a été un match de guerrier. On a pris 3 points. Et une semaine plus tard, on reçoit le Roi dans les mêmes conditions. On refait un nouveau match de guerrier. On reprend 3 points. Et ben là, tout de suite, dans la tête, ben ça va beaucoup mieux. Et ça a lancé notre saison. En fait, on a 2 saisons. Quand on a débuté la saison, on a fait 5 défaites d'affilée. Depuis ces 5 défaites d'affilée, on est sur 7 victoires, 2 nuls et 3 défaites. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on serait 3e, en fait. Donc ça peut aller vite. Mais c'est la tête qui manage tout. Donc le moral, le mental et l'envie de réussir et de retourner les situations.
Donc aujourd'hui, tu fais évoluer ton équipe en 4-3-3.
4-3-3, oui, c'est ça.
D'accord. Et donc c'est un schéma que tu vas garder jusqu'à la fin de la saison?
Oui. On va plus bouger. Je crois dur comme fer au 3-4-3. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, maintenant qu'on a trouvé notre équilibre et des automatismes, on va rester sur ce dispositif. Oui.
Oui, ça se confirme au niveau de ce que je disais au niveau du classement. C'est un groupe homogène. Vous marquez plus que vous encaissez parce que quand les 5 premiers matchs que vous perdez, effectivement, on peut se dire, il n'y a pas de défense, quoi.
Ah ben c'est sûr, on a pris beaucoup de buts, on en prend 4 à Libourne, on en prend 2, on en prend 3 à Niort Saint-Liguer. Enfin, notre début de championnat, il est catastrophique. Donc c'est vrai que si aujourd'hui on isole ces 5 premiers matchs, ben on est bien. Hein. Surtout dans une poule qu'on découvre, etc. Mais ces 5 premiers matchs nous font mal au classement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si ça va mieux, eh ben on est encore au bord de cette zone de relégation. Tout le monde est serré et on a un gros calendrier pour terminer, donc il y a rien n'est terminé. Non, il faut qu'on soit vigilant.
Au niveau des structures, cette année, qu'est-ce que ça a donné, Michael?
Ça a été très court puisque c'est là où on a commencé à avoir tous nos blessés. On a passé en coupe. Alors on est rentré au deuxième tour de Coupe de France. On a battu roulé, mais sur le match, je perds 2 joueurs dont une fracture de l'épaule. Et donc du coup, on a joué derrière contre Poloniex chez nous. Et une R3 qu'on avait justement dans notre poule l'année dernière, on l'a joué avec un effectif décimé et du coup on perd 2-1 je crois de mémoire. Et en Coupe de Nouvelle-Aquitaine, pareil, on a passé un tour, on a joué contre une 3e division qu'on a battu et on a battu Koz aussi chez eux au pénalty. Donc ça avait été aussi important pour le moral. C'était dans cette fameuse ce fameux moment là où on commençait à prendre des points en championnat. Donc le fait d'aller battre Koz chez eux en coupe, c'était super important. Et on s'était fait sortir sur le tour d'après.
D'une manière générale, quand tu construis ta saison, la coupe c'est de l'accessoire ou c'est aussi important que le championnat?
Non, c'est de... Alors les joueurs aiment pas qu'on dise ça, mais moi c'est de l'accessoire. La Coupe de France pour moi c'est pour les joueurs, pour les maillots et surtout bien préparer notre saison. Pour moi c'est des matchs amicaux supplémentaires. Et la Coupe d'Aquitaine, si on se fait sortir très vite en Coupe de France, elle est là justement pour continuer notre préparation. Mm-hmm. Par contre si on continue les matchs en Coupe de France, ça veut dire qu'on va rentrer en Aquitaine en novembre, décembre, et c'est là où on habituellement, ça commence à tirer sur les jambes, il y a beaucoup de blessés, et c'est des matchs qui, pour moi, apportent plus de blessures et de cartons que de positifs. Voilà. Donc, mais par contre, il faut quand même les utiliser. Nous, cette année, on a été contents en Nouvelle-Aquitaine de se déplacer à cause parce que finalement, on les a battus et que ça nous a fait le plus grand bien à la tête. Et que, voilà. Mais, de manière générale, c'est pas forcément une compétition que je mets en priorité.
D'accord. Oui, parce que quand on regarde le début de saison avec les blessures, c'est sûr que pour vous c'était simplement préparer la suite de la compétition. Oui.
C'est ça, exactement, c'est ça. Et parce que quand on bat Koz chez eux, donc on fait un très gros match là-bas, on les bat chez eux en coupe. Le week-end après, on va à Libourne. Alors Libourne, on perd 4-1, mais ça reste anecdotique. dans le sens où on mène 1-0 jusqu'à la 70e. Oui. Sauf que les blessures et la fatigue, etc., on n'a pas tenu le dernier quart d'heure. En plus, ils avaient des descentes de la N2 sur ce match-là. Et du coup, le dernier quart d'heure, on a explosé. Et le score reste anecdotique. Mais on fait un très bon match à Libourne. On mérite pas ce 4-1. Et derrière, c'est là où on bat Niort Saint-Flo et le Roi dans la foulée. Donc ce match à Cosse, finalement, cette Coupe d'Aquitaine, c'est peut-être aussi ça qui nous a déclenché un petit déclic en allant battre Cosse chez eux.
Dédé, une dernière question peut-être, Mickaël, nous arrivons au terme de cette émission. Ça passe très vite parce que tu es un interlocuteur de qualité. Pardon, on va laisser le soin à Dédé de poser la dernière question.
Vous allez terminer le championnat dans quelques semaines, et je crois qu'il reste encore 4-5 matchs.
5, oui, tout à fait.
5 matchs. On va souhaiter évidemment aux Charentais de se sauver. Il y en a qui sont mal en point comme Merpin et Siroy d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a une assemblée générale, des manifestations pour cette fin de saison et les prochains matchs à domicile où on appelle au public?
Alors il n'y aura rien de fait. Pour sacraliser cette fin de saison, on va dire. En plus, on terminera à Choré lors de la dernière journée. Par contre, le club, évidemment, va animer va mettre en place des animations sur cette fin de saison, des tournois au niveau des jeunes. Il y a tout un tas de choses, mais je veux qu'il n'y ait rien autour de l'équipe première. Je veux qu'on reste concentré sur ce qu'on a à faire.
Parfait, Mickaël. On va te souhaiter à toi et à ton équipe le meilleur pour cette fin de saison. Il n'est pas impossible qu'on se recontacte en toute fin de saison pour qu'on fasse ensemble un bilan de cette période pour savoir si le championnat 2023-2024 sera une réussite. Pardon, je cherchais le terme, le voilà. Mais bon. Donc tout ça, ça nous fait penser que il faut qu'on encourage plus que jamais les clubs charentais de cette poule-là pour de manière à ce qu'on puisse en avoir le plus rapidement possible et le plus nombreux possible la saison possible.
On espère. Ouais, on espère.
Parfait, Mickaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. À
merci
tout bientôt. À vous.
Merci et bonne soirée.
Bonne soirée, bonne soirée. Mickaël. Chers auditeurs, cette émission est terminée. On se retrouve lundi prochain, 19h10, même heure, même endroit. Merci de votre fidélité.
Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va revenir sur les résultats des équipes charentaises ce week-end en commençant par le football et la CFC qui recevait le leader La Roche-sur-Yon vendredi soir au Stade Le Bon. Un match important pour la CFC qui pouvait faire un pas de plus vers le maintien. Ce pas a été effectué puisque les Angoumoisins l'ont emporté 1-0. Un but marqué par Andrea Marquez à l'heure de jeu suite à un corner et une belle tête du défenseur de la CFC qui permet aux Angoumoisins de battre le leader La Roche-sur-Yon. Les autres résultats de cette poule de National 2 avec Saumur et les Herbiers qui font 2 partout, Trélissac et Saint-Privé qui font 1 partout, Bourges s'impose contre Angers 2-1, Bergerac-Libourne 3-0 pour Bergerac, Avoine-Chinon et Paris 13 Atlético qui font 1 partout et enfin Blois bat Romorantin 2-0 au classement. Le Paris 13 Atlético passe en tête de cette poule et la CFC reste au 4ème rang avec 37 points. Ce qui assure mathématiquement la CFC de terminer dans les 9 premiers. Les Angoumoisins sont donc maintenus à 99,9% puisque maintenant il ne faut pas terminer 9e et les Angoumoisins comptent actuellement 5 points d'avance sur le 9e Saint-Privé. Prochain match pour la CFC dans 15 jours du côté de Romorantin. En régional 1, les réservistes angoumoisins avec un effectif rajeuni suite au maintien obtenu par les hommes de Mathieu Kouida se déplacer à Brive. Un déplacement forcément compliqué face à une équipe de Brive qui, elle, n'a pas encore assuré son maintien. Et match nul 0-0 pour les angoumoisins qui restent bien ancrés à la 3ème place du podium. En régional 2, je vais donner les résultats des clubs charentais en poule B. Charente-Limousine fait 1 partout contre Limoges Portugais. Siroy malheureusement s'incline 2-0 du côté de Choré. Le Roi s'incline 1-0 à Saint-Émilion. Saint-Arix ramène un bon match nul de Niort-Saint-Florent 1 partout. Merpin s'incline du côté de Libourne 1-0. Et enfin, en poule G. L'Alliance 3B gagne 3-0 face à Mussidan. Par forfait en Régional 3, les résultats des clubs charentais avec la victoire de Ruffec 4-1 à Autize. La défaite malheureusement de Confolens 4-1 du côté de Mel. Défaite de Bassot 3-1. Défaite malheureusement de Champigny 3-1 contre Couzex-Chapla. Victoire de La Roche-Rivière 3-0 à Soyaux. Et enfin, Cumoyen Hill 3 partout et Vindel qui s'impose contre Marmande. Victoire 3-1 des hommes de Thierry Mornay. En D1 de district, les résultats de cette journée avec Ruel-Lessac 0-0, Saint-Michel-Balacouronne 2-0, l'Alliance 3B est battu chez lui par Linard 3-2, Cognac est battu également à domicile par les Portugais du Gond 7-2, Leroy bat Merpin 4-0 et enfin Moutier et Sireuil font de partout, sachant que Sireuil avait également joué mercredi un match en retard contre Linard et le score a été de 0-0. Place mercredi 1er mai au quart de finale de la Coupe Charente. En D2, quelques résultats également avec la victoire de Roulé 2-1 contre Montbron, le match nul pardon de Mornac 2 partout contre Chasseneuil, la victoire de Ruffec 3-1 contre Champigny, la victoire de Charente-Limousine 3-2 du côté de Aigre, le match nul entre Fléac et Brigueuil de partout, La Roche-Rivière, Ruel de partout. En poule B, Verdi et Grande Champagne dans le match au sommet ont fait un partout. Victoire de Saint-Alex 3-1 contre Puymoyen. Saint-Séverin et Montmoreau font 3 partout. Victoire de Clé 3-2 contre Nersac. Victoire de Jarnac 2-1 à Saint-Brice. Et enfin victoire de Bel Air 2-1 chez la Lanterne Rouge Sud-Charente. Le SA15 s'est imposé vendredi soir à Nevers. Un bel exploit pour le SA15 qui s'impose 16-15 en terre nivernaise. Un succès qui valide le maintien du SA15 en Pro D2. Un match que nous avons débriefé avec Fred précédemment dans le SA15 Mag Attitude. En handball, malheureusement, mauvaise soirée pour les Charentais puisque le Tech s'est incliné 34-32 du côté de Libourne. Une défaite qui fait descendre malheureusement les hommes de Dimitri Goudu à la troisième place du classement en National 2 masculine. En National 1 féminine, la CH recevait Bruyguière, un mal classé, pour renouer enfin avec la victoire. Malheureusement, défaite de la CH 24-31. Et enfin, en National 2 masque féminine, toujours Cognac se déplaçait à Gannes. Belle victoire des Cognacaises, 23-21. Cognac toujours en basket. Cognac terminé son championnat de National 3 masculine. Et malheureusement, les Cognacais se sont inclinés du côté de Orme. Défaite 84-68 pour les hommes de Christophe Poncharo qui donc malheureusement sont relégués en pré-national la saison prochaine. Enfin, un trail, le trail de la Bohème avait lieu hier avec plusieurs courses, hein. Il y avait un 10 km, un 15 km et un 24 km qui étaient proposés. Sur le 10 km, victoire de Ramoun, victoire de Fagé sur le 15 km et enfin sur le 24 km, victoire d'Audibert, sachant que chez les femmes, la distance reine a été remportée par Charlène Boutigny. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.